16.
Romains chapitre 12 et les versets 9 à 16. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Nous allons nous arrêter là et justement, j'ai profité de quelques minutes pour nous refaire une synthèse de ce qu'on a vu jusque-là, hein, depuis le début du livre. Parce que dans cette épître, l'apôtre Paul a ce projet, c'est de nous présenter la bonne nouvelle. C'est vraiment comprendre ce qu'est la bonne nouvelle ou l'évangile. Cette bonne nouvelle, vous vous souvenez, hein, c'est pas seulement à Noël qu'on en parle, mais c'est les anges, quand ils ont apparu aux bergers de Bethléem, ils ont dit « Je vous annonce une bonne nouvelle ». Et bien l'apôtre Paul, lui, poussé par l'esprit, là est en train de nous donner, de décortiquer, de donner en détail, nous expliquer ce que c'est que l'évangile de Dieu. Hein, c'est ça qu'il dit dans le premier verset du premier chapitre, il nous parle de l'évangile de Dieu. Et il nous dit rapidement, une première chose, c'est qu'il nous a dit que l'homme, l'homme déjà Adam, qui est le représentant de la race humaine, par sa désobéissance, nous a mis dans un bourbier, dans un marécage, et duquel nous ne pouvons pas nous extirper. Impossible de sortir de là de nous-mêmes. C'est un peu comme des sables mouvants. On est pris dans ce-là et on n'arrive pas à sortir. Cette situation spirituelle, cet état spirituel dans lequel nous nous trouvons. Mais la grâce de Dieu intervient. La grâce de Dieu nous est présentée. La grâce, quand on parle de grâce, c'est quelque chose qui n'est pas mérité, mais qui est proposé. On peut, par le biais de la grâce, on peut recevoir bien plus que par des droits. Les gens sont tout le temps en train de dire « mais j'ai des droits, des droits, des droits ». Écoute, compte sur la grâce de Dieu, tu en auras bien plus que tes droits. Et donc il nous dit, par la grâce de Dieu, en plaçant ta foi en Jésus-Christ, en faisant confiance aux promesses de Dieu. Par exemple, une promesse, c'est si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est Romains 19. D'ici, tout simplement, fais confiance, même si tu ne comprends pas, mais la foi, la confiance te permet d'aller plus loin que ton intelligence. Et il dit, si tu crois cela, Dieu a prévu la justification. Tout à l'heure, quelqu'un dans la prière a parlé de c'est d'être rendu juste, acceptable devant Dieu. Et si lui justifie, nous sommes justifiés. Si nous essayons de nous justifier, il y aura toujours quelqu'un pour redire quelque chose. Mais là, nous pouvons être justifiés. Et donc, après, on est arrivé au chapitre 12. Donc, au chapitre 12, où il commence, il nous dit, voilà, vous avez, pour vous tous qui avez cru, vous tous qui êtes enfants de Dieu par la foi, par la justification, par ayant reçu le pardon de vos péchés, vous tous, maintenant, vous êtes introduits par le Seigneur dans un corps. Et c'est pas quelque chose que l'être humain a organisé, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. C'est un organisme qu'il appelle le corps de Christ. Et toutes nos associations, même religieuses, chrétiennes et tout ça, contiennent du monde qui n'est peut-être pas au Seigneur. Mais le corps de Christ, eh bien, ce ne sont que des gens qui sont à lui. Et celui-là ne porte pas de nom, et la tête de ce corps, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Et lorsqu'il nous introduit dans ce corps, il nous dit dans le début de ce chapitre 12, lorsqu'il nous introduit dans ce corps, eh bien, c'est déjà merveilleux d'être, devenir un membre du corps, mais en plus, il donne à chaque membre une fonction. Il a dit, tu as une utilité. Et cette utilité, cette fonction qu'on te donne, c'est pour le bien du corps tout entier. Et c'est cette image qu'il prend d'un corps comme d'un corps humain, hein, où les pieds nous transportent jusqu'à la cuisine, et là la main prend la nourriture et la met à la bouche et nourrit tout le corps. Hein, c'est la fonction lorsqu'on travaille ensemble. Et donc nous sommes appelés à remplir cette fonction, et 1 Corinthiens 12, 7 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun comme il veut, parce que heureusement que c'est lui qui structure. Parce que si c'était les hommes qui organisaient le corps de Christ, eh bien tout le monde voudrait être, je ne sais pas, tout le monde voudrait avoir le même don, un don frappant. Hein. On chercherait tous à avoir quelque chose qui tape à l'œil. Et ça ferait un monstre. Mais parce que le Seigneur, c'est lui qui décide, alors il y a des membres qui sont visibles, il y a des membres qui servent tout le temps, il y a des membres qui sont moins visibles, mais pas moins nécessaires. Mais ensuite, maintenant, il dit, vous êtes formé ce corps, vous êtes dans ce corps. Maintenant, il y a une vie à vivre dans le corps, puisque c'est un corps vivant. Ça veut dire que chaque cellule est vivante, chaque membre est vivant, et donc il y a une vie à vivre au sein de ce corps. Donc dans ces versets-là du chapitre, verset 9, en fait jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 16, il y a une première partie, il nous parle de la vie que nous devons vivre à l'intérieur du corps, entre nous. Et à partir du verset 17 jusqu'à la fin, il parlera de cette vie que nous vivons par rapport au monde extérieur. Hein? Parce que nous sommes quand même là, même si nous sommes dans le corps de Christ, il y a un contact avec le monde extérieur. Nous devons l'avoir. Jésus l'a eu, et donc nous pouvons l'avoir. Hein? Lui, il a été même appelé l'ami des gens de mauvaise vie. Hein? Donc ça veut dire qu'il avait le contact avec eux, et il avait cette relation avec eux. Mais en premièrement, nous avons ces versets 9 à 16, c'est les relations dans le corps, au sein du corps. Et j'avais pensé pouvoir faire ces 16 versets aujourd'hui, ce matin, mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, oh, je ne vais pas y arriver. Donc on va faire ça en deux fois. Et donc, pour faire remarquer un peu ces qualités ou ces caractéristiques de l'enfant de Dieu dans le corps de Christ, eh bien, vous voyez, d'abord au verset 9, vous voyez que l'amour soit sans hypocrisie. Une première chose, que l'amour qui est là, parmi les enfants de Dieu, soit sans hypocrisie. Deuxièmement, au verset 11, il dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Deuxième orientation, dans le corps de Christ, du zèle et non de la paresse. Au verset 12, il dit, réjouissez-vous en espérance. Donc il y a cette joie qui est là, qui vient de cette espérance que nous avons, hein, dont nous avons chanté tout à l'heure. Et puis, au verset 13, il nous dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donc quatre domaines qui doivent être caractéristiques du chrétien. Nous allons prendre les deux premiers, hein, pour commencer, parce que non seulement il nous donne le premier, mais ensuite il le développe. Et donc l'apôtre développe chacune de ces caractéristiques. Nous allons prendre déjà au verset 9, et il nous dit, il nous parle d'un amour, un amour vrai, c'est étonnant que qu'on soit obligé même de parler d'un amour vrai. Hein. Comment, à quoi ressemble un faux amour, hein? Mais s'il en parle, c'est que c'est possible, ça existe. Hein. Donc, un amour vrai. Le mot amour, ici, en fait, c'est le mot agapé en grec. Hein. Le mot agapé, c'est un mot qui était assez rare dans la littérature grecque. Hein. Ils avaient d'autres mots. Ils avaient l'amour philéo, hein, l'amour fraternel entre les frères, l'amour filial. Ils avaient un amour sensuel, hein, c'est eros. Hein. Et puis, le mot agapé, c'est amour, mais c'était autre chose. Hein. C'était peut-être... Peut-être ils en parlaient moins parce que c'était moins répandu. Hein. Mais c'est justement poussé par l'Esprit de Dieu que les écrivains du Nouveau Testament, eh bien, ont choisi ce mot-là pour décrire l'amour de Dieu. Et c'est le mot qu'on trouve dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein, c'est un amour qui donne, c'est le même mot qui est utilisé dans Éphésiens 5, c'est l'amour que doit avoir un mari pour son épouse. C'est encore une fois, il dit, tu te sacrifies pour elle. C'est toi qui t'investis en elle et tu fais quelque chose d'elle. Et il ne pouvait pas, en nous disant cela, eh bien, on dit, ah, eh bien, pour qu'il nous dise de le faire, il faut qu'il fasse lui le premier, c'est-à-dire c'est ce que Jésus-Christ fera avec son épouse, l'Église. Il se sacrifie pour elle, il s'investit en elle pour la rendre meilleure. Eh bien, c'est l'intention, c'est cet amour-là. C'est un amour qui cherche le bien-être d'autrui. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain et qui illustre ce que c'est que aimer son prochain. Le bon samaritain, il était en voyage, il allait quelque part. Et il s'arrête, il prend le temps. Hein, on voit, il y en avait deux autres qui étaient passés, ils avaient enfreint cette règle de non-assistance à personne en danger. Ben, lui, il s'est arrêté. Il a pris cet homme, pourtant il était samaritain, en train de ramasser un juif, alors qu'il pourrait dire dans sa tête, mais moi, si c'était moi à sa place, et lui il passait, il ne m'aurait pas touché. Mais il n'a pas entretenu de telles pensées. Il a dit, je le prends, c'est un être humain, je le prends. Il l'a chargé sur sa monture, et puis il l'a emmené jusque dans une hôtellerie, et il a laissé de l'argent pour couvrir les frais jusqu'au rétablissement de cette personne. Il dit ça, c'est le mot amour, aimer son prochain. C'est l'amour qui se sacrifie. Comment avoir de la contrefaçon pour cet amour-là? Hein, il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Le mot hypocrite, c'est hypocritos, qui veut dire c'est le rôle d'un acteur, hein, qui c'est pas vraiment lui, mais il a l'apparence d'une personne. Il est en train de jouer un rôle et il dit que votre amour ne soit pas de ce genre-là. Hein. On en parle beaucoup et l'apparence est là, mais il n'y a rien derrière, hein, il n'y a rien dedans. Il dit que votre amour soit sans hypocrisie. Et quand il dit qu'elle soit sans hypocrisie, il ne nous donne pas 36 options. Il a dit, c'est ou le vrai, ou pas du tout. Hein? Il n'y a pas un petit peu, mais oui, j'essaie, je fais un effort. Non, il dit, ou c'est du vrai, ou pas du tout. Il dit que votre amour soit sans hypocrisie, que ce soit vrai tout le long. Hein? Et alors, justement, cet amour vrai, sans hypocrisie, eh bien, il sera reconnu par trois qualités. Il dit, cet amour sans hypocrisie, qu'est-ce qu'il va... Première chose, il va avoir le mal en horreur. Il va être fortement attaché au bien. Hein, c'est ça qu'il dit. Hein. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Bien sûr que quand il parle du mal, l'apôtre Paul, là, il est en train de parler du mal dans la vie du croyant. Hein. Il n'est pas en train de parler de ce qu'il y a dans le monde. Ça, c'est autre chose. On sait. Mais il est en train de parler du... Ayez le mal en, qui est en vous, qui peut être en nous, eh bien, ayez cela en horreur. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans notre communauté, eh bien, nous ne voulons pas tolérer. Il suffit de lire l'histoire d'Achan dans l'Ancien Testament que ça dérange, même s'il n'y en a qu'un seul qui a péché, ça dérange Dieu. Et ça ralentit tout le monde. Dans 1 Corinthiens 13, eh bien, dans la description de ce chapitre sur l'amour, eh bien, il dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Hein? » Il ne tolère pas l'injustice. Avoir le mal en horreur, c'est réagir au péché dans la vie comme certains réagiraient s'ils trouvaient dans leur lit une araignée ou une souris. Hein? Vous savez, ils ne restaient pas comme ça au bureau. Je ne dis pas un serpent, je ne dis pas un scorpion, je dis même une araignée dans le lit, ah, ça ne va pas. Il dit, mais que soyez autant que cela dérangé par la présence de péché. C'est ça l'amour vrai. Et comment avoir cet amour vrai? Eh bien, c'est l'entretien. Vous savez, dans un centre hospitalier, comment est-ce que les médecins font pour ne pas propager une infection ou un virus? Eh bien, c'est en restant propre, c'est tout, tout simplement. Ils sont constamment en train de se laver les mains, constamment en train d'avoir des instruments propres, constamment, tout, c'est tout. Et après, là, bon, après, on peut dire que le centre est propre. Et pour nous, dans l'Église de Jésus-Christ et dans ma vie personnelle, eh bien, si je veux que ça soit vrai, l'amour vrai, me dit l'amour sans hypocrisie, c'est un amour qui ne tolère pas tout ce qui dérange Dieu. Nous devons être, en fait, allergiques. Hein, notre sœur Marie-Josée, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a un problème avec le gluten... Et à cause de la réaction qu'elle voit, ben elle fait très attention. Elle passe chez tout le monde, et c'est clair, vous avez contact avec elle, vous savez qu'elle ne tolère pas le gluten. Et c'est le seul moyen pour elle de maintenir une vie équilibrée. Ben, un enfant de Dieu, ça doit être pareil. Dis-moi, non, le péché, hein, je sais que ça existe, je sais que ça tourne autour de moi, je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont, tout ça, mais moi, je ne tolère pas. Il dit que votre amour soit sans hypocrisie, parce que l'amour de Dieu... ne tolère pas l'imperfection, les manquements et ce qui déplaît. Hein, je lisais ce matin, il dit, il y a des actes en soi, ils ne sont pas mal, moralement ils ne sont pas ni mal, ni c'est neutre en soi. Mais il se peut que cet acte-là dérange quelqu'un. Eh bien, si je sais que ça dérange, eh bien, si j'aime cette personne, je ne vais pas le faire. Même si, en soi, l'acte n'est pas moralement mauvais. Mais par amour, je dis, d'accord, je ne le fais pas. Hein? Des fois, vous avez des gamins qui, par plaisir, ils aiment bien faire grincer leurs ongles sur l'ardoise ou sur autre chose. Et puis, il y en a d'autres, oh, paralysés. Il aime bien, en général, le gamin, il trouve ça marrant de voir sa mère devenir... Mais si tu l'aimes, tu ne le fais pas. Tu essaies de ne pas le faire. Moralement, est-ce que c'est méchant? Non, moralement, en soi, c'est rien. Mais si ça dérange, l'amour... Donc il dit, l'amour soit sans hypocrisie. C'est, en fait, ça touche. Hein, et si donc, si ça déplaît à Dieu, si ça dérange quelqu'un, eh bien, pas grave. L'apôtre Paul, il a parlé de cela par rapport à certains aliments. Il a dit, si ça dérange, voilà, je m'en prive, c'est tout. Parce que je t'aime plus que cet aliment. ce n'est pas suffisant d'être plus propre que les autres, mais il nous dit « soyez saints comme il est saint hein ». 1 Pierre 1,15, il nous dit « soyez saints comme Dieu est saint ». Lisons là quelques versets dans Jude. Hein, ce n'est pas souvent qu'on lit dans Jude, parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets dans Jude. Mais regardez dans Jude les versets 20 à 23. Lorsqu'il parle du chrétien, la vie que nous devons mener, hein, parce qu'il commence par dire « pour vous, bien-aimés ». Donc c'est pour le chrétien qu'il parle, c'est au chrétien qu'il parle. Donc Jude, et donc on est versets 20 à 23. Il dit « pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les affranchissant du feu, arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Ce n'est pas seulement la saleté, mais c'est même le vêtement qui est souillé par cette saleté. Hein, il dit, on veut aucun rapport. Restons purs. Il dit, voilà, frère, en attendant, hein, vous maintenez votre amour, vous attendez le retour du Seigneur, mais en attendant, voilà ce fait. Hein, faites tout entre vous que dans le corps de Christ. Eh bien, il y a cet amour fraternel, cet amour vrai qui se développe et qui purifie. L'amour sans hypocrisie est un amour qui a le mal en horreur. Deuxièmement, il dit au verset 10, il dit d'être plein d'affection les uns pour les autres. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. L'affection à laquelle il fait référence, et là il emploie, c'est pas le même mot, c'est pas le même mot agapé, c'est le mot de l'amour fraternel. L'amour qu'on a dans une famille, hein, entre frères et sœurs, tout ça, c'est l'amour filial. Et dis donc, on le travaille aussi, il y a l'amour qui sacrifie, mais il y a aussi ce fait de trouver du plaisir à être ensemble, et de faire des choses ensemble, et donc, c'est l'amour filial, il dit... soyez plein d'affection, hein, donc, et cette expression de l'amour sera le signe pour le monde que nous sommes ses enfants. Ça ils peuvent le voir. Hein, ceux qui viennent, ils voient comment nous fonctionnons, comment nous travaillons, parce que Jésus lui-même a dit, hein, c'est à ceci le monde reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Hein, et pour vous qui avez vous êtes obligé parfois de se réunir avec du monde, de la famille ou des quelques-uns qui n'ont pas les mêmes sentiments par rapport à Dieu et la pureté, eh bien, des fois, c'est très difficile hein, avec eux. Mais dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9, il nous dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » C'est quelque chose que vous avez appris de Dieu. Hein, c'est pas le monde qui nous apprend à comment aimer. Eux, ils aiment. Si tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Hein, c'est un peu comme ça la règle dans le monde. Si j'ai besoin de toi, si tu peux me rendre service, je te rends service. Et c'est du donnant-donnant, c'est un échange. Et puis si j'ai plus besoin de toi, ou si tu me plais plus, ou quelque chose, ben, c'est terminé. Ça, c'est le monde ne nous apprend pas l'amour. Il dit, vous l'avez appris de Dieu, et Dieu vous a appris autre chose. Il dit, mais toi, c'est tout comme Dieu, il aime de par sa nature, il est amour, et bien vous, ben vous allez aimer parce que vous êtes aimant, c'est tout. C'est pas parce que l'autre est digne ou l'autre est aimable, mais c'est parce que vous êtes aimant que vous allez aimer. Donc, être plein d'affection, ça aussi, ça fait partie de cet amour sans hypocrisie. Et puis, la deuxième partie de ce verset 10, il nous dit par honneur, user de prévenance réciproque. User de prévenance réciproque. Vous savez ce que c'est que la prévenance, hein, c'est-à-dire, je préviens, je vois à l'avance le besoin de l'autre. Hein. C'est, je vois, avant qu'il demande, je vois déjà qu'il a un besoin. Et je veux répondre. C'est ça la prévenance. Et il dit, l'amour sans hypocrisie, eh bien, est prévenant. Hein, il anticipe le besoin de l'autre. Il fait passer les intérêts d'un frère ou d'une sœur avant les siens. Hein, Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il dit ça, tu penses à l'autre, tu penses à son intérêt, pas le tien. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va me coûter? Non, c'est une question de « il en a besoin ». Et remarquez que si c'est seulement je dois être prévenant, il dit il me restera rien hein, si je commence à donner à tout le monde ce dont ils ont besoin. Il dit prévenance réciproque. Hein. Là, personne n'est oublié. Moi, je pense à son besoin, lui, il pense au mien. Et ça, c'est autre chose. Déjà, dans une famille, ça donne une vie de famille, déjà. Et puis après, dans la communauté de Jésus-Christ, c'est là aussi. Vous avez déjà vu les maîtresses de maison, là, quand on reçoit du monde, à la maison, à la table, il y a les invités, tout le monde est là. Eh bien, l'une des caractéristiques d'une bonne maîtresse de maison, c'est qu'elle est prévenante. Elle voit le besoin. Elle voit quelqu'un en train de le chercher, elle se dit, hop, il cherche le sel. Et là, il a besoin à boire. Il manque ceci. Et le but, c'est rendre le temps agréable. On dit même elle s'oublie parce qu'elle est tellement préoccupée avec chacun. Ben c'est cet esprit-là, c'est ça l'amour sans hypocrisie, c'est l'amour qui cherche à comprendre, qui s'intéresse au prochain, qui essaie d'anticiper son besoin, de voir son besoin avant qu'il le demande. C'est toujours gênant de demander, n'est-ce pas? Hein, quand on arrive au point où on demande, c'est que vraiment. Mais si quelqu'un le voit, s'il le voit à l'avance, eh bien, il dit écoute, tu as besoin de ça, je vais t'aider. Et ça, ça change la relation, c'est autre chose. Et c'est ça, l'amour sans hypocrisie, ça, c'est le vrai. Hein, c'est pas la contrefaçon. La contrefaçon, c'est on met des petits cœurs de partout, et puis ça, mais il n'y a rien derrière. Donc il dit une première caractéristique du comportement dans le corps de Christ, c'est cet amour sans hypocrisie, l'amour vrai. Et deuxièmement, donc à partir du verset 11, il nous parle d'une motivation dans le service. Hein, c'est une autre caractéristique de ceux qui sont au Seigneur, réellement au Seigneur, c'est que ils ont une motivation dans le service. Il nous dit au verset 1, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse ». Même dans le monde, la paresse n'est pas bien vue. Hein. Et puis, il suffit de lire les proverbes de Salomon, et puis alors, il n'y a pas de compliment hein, pour le paresseux. Mais il dit, c'est pas seulement une question, mais j'ai rien fait de mal. C'est ça que je me rappelle, il y avait une époque où je répondais ça à papa, mais j'ai rien fait. Il dit, ben justement, c'est pour ça que je te gronde. Il dit, je suis là, je viens le dimanche, je suis là, je fais, je consomme, et puis il dit, non, et du zèle, pas de la paresse. C'est pas là, vous êtes juste pour consommer, pour recevoir, et puis c'est l'autre, et les autres qui donnent. Non, et du zèle, ça veut dire que tout ce qui concerne votre vie surnaturelle soit vécu sans relâche. En Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12, il dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il dit, c'est pas juste une question de... Non, c'est une question, je suis engagé, je suis, ça y est, et je veux servir. Il dit ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans la foi. Galates 6, 10. Et dans 2 Thessaloniciens 2:13, il dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. C'est rester motivé. Et bien sûr, si la seule raison, si ma seule motivation, c'est ce que je vais en tirer, alors là, vous allez être découragé très rapidement. Hein. C'est, vous savez combien la nature humaine est ingrate. Mais toi, tu le fais parce que la motivation vient de l'intérieur. C'est pas ce que tu reçois. C'est pas, il m'a pas dit merci. Bon, c'est son problème hein, s'il n'a pas dit merci. Toi, tu l'as fait de la générosité de ton cœur. Tu l'as fait pour le Seigneur. Combien de fois j'ai entendu des situations, il m'a pas dit merci, donc on ne se parle plus. Oh bon, oui, il n'a pas été reconnaissant. Écoute, pour qui tu l'as fait? Tu as dit pour le merci, tu ne l'as pas eu, ben, tant pis pour toi. Si tu l'avais fait pour le Seigneur, ça aurait été autrement. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que même si les autres ne remarquent pas pour exprimer l'appréciation, le Seigneur voit. Mais il dit, et si tu l'as fait pour être, hein, vous connaissez le sermon sur la montagne, si tu le fais pour qu'on te glorifie, pour qu'on t'apprécie, pour que si tu l'as fait pour les hommes, ben, tu as reçu la gloire. Hein, moi, j'ai rien à te donner. Mais si tu l'as fait pour Dieu, alors il dit, ah ben lui, là, il te récompensera. Hein, c'est question aussi, si je commence à ressentir de la lassitude dans mon service, et bien la question à se poser, c'est pour qui est-ce que j'ai travaillé? Et c'est vrai que travailler pour l'être humain, pour la nature humaine, alors là c'est ingrat. Il dit, premièrement, il dit du zèle et non de la paresse. Ensuite, il disait, soyez fervents d'esprit. Hein, dans ce verset 11, c'est une manière aussi d'exprimer cette motivation dans le service. Fervent d'esprit, le mot fervent, hein, il y a cette idée de brûlant, de bouillant. Hein, le sens de rester actif. Hein, c'est pas c'est le contraire, ce serait le laisser aller, baisser les bras. Non, il dit, soyez fervent d'esprit. Dans la vie chrétienne, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut des actions. Hein? Des actions motivées par l'amour. C'est papa qui disait toujours, il disait, le sol de l'enfer sera tapissé de bonnes intentions. C'est rempli de monde qui a eu des bonnes intentions, mais qui ne les ont jamais réalisées. C'est pas les bonnes intentions. Ah, j'avais voulu le faire. Oh, j'y ai pensé. Tiens, justement, tu es arrivé avant moi. Ça compte pas, alors. Hein, qu'est-ce que tu as fait? L'apôtre Paul dit, l'amour de Christ nous presse. Hein, quand on lit l'histoire de l'apôtre Paul, on est fatigué. Il est tout le temps en train de se déplacer, hein, tout le temps en train de courir, hein, tout le temps en train de faire quelque chose. On dit, mais Paul, tu connais pas les vacances? Hein, tu n'as jamais entendu parler de la semaine de 35 heures? Mais il dit, l'amour de Christ me presse. C'est pour ça que je le fais. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Vous savez, vous partez sur un marathon. Si vous vous arrêtez avant la fin, c'est comme si vous étiez arrêté 1 kilomètre après le départ. Ça compte pas. Hein, même si j'ai fait 10 kilomètres, même si j'ai fait 20 kilomètres, et si je m'arrête avant, je n'ai pas fini la course. Et la question, c'est allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Peu importe dans quel état. Hein, il y en a, ils passent la ligne d'arrivée et puis ils s'écroulent. Mais ils sont passés. Ils sont passés. C'est dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui a eu un muscle qui a lâché et est tombé. Et celui qui était devant lui, donc son concurrent, eh ben, s'est arrêté, revenu, il l'a ramassé. Puis ils ont traversé la ligne d'arrivée ensemble. Ça, c'était digne d'applaudissement. Cet homme, il avait des valeurs plus élevées que le fait d'être le numéro un. Qui est revenu, et puis il l'a porté, et ils ont traversé la ligne ensemble. Mais c'est ça l'esprit du chrétien. Et je, c'est pas seulement moi, mais je veux que tous arrivent, qu'on parvienne tous. Et ensuite, encore dans ce verset 11, la troisième partie, il nous dit « Servez le Seigneur ». Ah, ben c'est maintenant que tu en parles. « Servez le Seigneur ». Et le mot « servir », là, c'est le mot qui vient de « doulos », qui veut dire « c'est le service de l'esclave hein. ». C'est-à-dire ce qui est caractéristique de l'esclave, c'est de... c'est sa préoccupation avec la volonté de l'autre. C'est pas ses projets, c'est pas son intérêt, c'est ce que l'autre veut. Hein, c'est ça le. On n'est pas forcément malheureux hein, si, en cherchant de plaire à l'autre. Le service en part, c'est plus que le fait d'adorer, de louer le Seigneur. Vous savez, on en a beaucoup de communautés où c'est. Tout le monde est là, tout le monde peut adorer, peut louer le Seigneur et chante, et puis là, on lève les mains et on a ceci, cela. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant la semaine hein? Est-ce que ta manière de vivre fait que des personnes te voient et disent « Mais ça doit être incroyant, ça. » Ça, c'est pas pareil. Hein? Il est motivé autrement. Il n'est pas motivé par le gain, il est motivé par autre chose qui est en lui. Hein, c'est ça, servez le Seigneur comme un esclave qui n'a pas d'ambition personnelle et d'ambition personnelle qui le divise son temps ou qui le détourne son attention de la volonté. C'est un qui est préoccupé avec la volonté du maître et sa volonté du maître est primordiale pour lui. Et vous savez, Jésus-Christ. Son ministère sur terre, il n'était pas malheureux. C'est épuisant, c'était fatigant, mais il trouvait un plaisir à faire la volonté du Père. Il dit, ce n'est pas ma volonté, je fais la volonté du Père. Il disait aux disciples, il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Il y avait autre chose qui le motivait. Et il dit, c'est ce mot-là, servir le Seigneur. C'est pas une question, on n'est pas forcément malheureux quand on fait la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, quand on l'honore, il honore. Il prend soin de nous. La volonté du maître est primordiale pour lui. Et il ne le fait pas par crainte d'une répression ou d'une représaille, mais il le fait par dévouement, par dévotion. Dis-moi, je cherche son bien. Je veux que lui réussisse. C'est ça la pensée. Il dit servir le Seigneur. Donc, assurons-nous que nous servons bien le Seigneur et pas un autre. Hein, la chose naturelle, c'est de servir soi-même. Je sais qu'il y a l'expression qui dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et parfois, c'est un peu vrai. Mais dans la vie chrétienne, je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Et donc, je reviens à ces deux caractéristiques. L'amour vrai et puis une motivation, une vraie motivation dans le service de Dieu. Ça, c'est caractéristique de l'enfant de Dieu dans le corps de Christ. Et lorsque tous sont actifs, tous portent leur charge, tous remplissent leur fonction, eh bien, le moteur ronronne. Vous savez, un mécanicien, vous venez le voir, il y a quelque chose, surtout les anciens, maintenant, ils ont des valises qu'ils accrochent et puis pour savoir où est le problème, mais les anciens mécaniciens, ils disent, fais tourner le moteur, et puis il met son oreille et puis il écoute. Et il arrive à déceler quelle pièce ne fonctionne pas, ne fait pas, remplit pas sa fonction. Vous voulez acheter une voiture, vous dites, je prends un mécanicien avec moi, il va, et puis il écoute. Et si, il dit, non, c'est bon, toutes les pièces remplissent leur fonction. Non, ça tourne bien. Eh bien, c'est ça que nous voulons que l'Église de Jésus-Christ soit. Hein. Si quelqu'un vient et puis il écoute, met l'oreille, il dit non, ça tourne bien. Parce que chaque pièce remplit sa fonction. Et ils disent, voilà, Dieu a bien le nécessaire, Christ est mort sur la croix pour que nous puissions entrer, faire partie de ce corps de Christ. Il dit maintenant, vous avez une responsabilité au sein de ce corps, entre vous déjà. Hein? Et donc là, nous en avons vu deux, et puis la semaine prochaine, nous verrons deux autres. Hein? C'est quand il dit de se réjouir en espérance et de persévérer dans la prière pour voir aux besoins des saints. Ça, c'est encore une autre partie qu'on verra, Dieu voulant, la semaine prochaine, si le Seigneur n'est pas venu avant. Mais déjà, un amour sincère, vrai, pas de la contrefaçon, vrai. Il a d'abord en horreur le mal, et il y a cet amour filial qui est là, qui s'exprime, il y a cet esprit de prévenance, j'essaie de prévoir le besoin de mon frère, ma sœur. Après, du zèle et non de la paresse, fervent d'esprit, servant le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Dites-moi, la perfection, elle n'existe pas. Ah oui, mais on peut toujours améliorer, n'est-ce pas? Et même une église pas parfaite, mais bon, qui va dans ce sens-là, c'est beaucoup plus agréable. Que le Seigneur nous aide, et nous allons prier. D'abord, quelques moments de silence. Et puis, s'il y a un domaine que le Seigneur vous a parlé, il a dit, écoute, tu as vu ça dans ta vie, eh bien, que nous puissions régler ça avec le Seigneur. Et puis, si vous ne connaissez pas le Seigneur, ben, sachez qu'on peut avoir accès à tout cela. Et il a rendu cela possible par sa mort sur la croix. Donc, il suffit d'aller lui dire, écoute, j'accepte que tu sois mort pour moi et pardonne mon péché. Et je veux être parmi ceux qui sont à toi. Que nous puissions être des chrétiens, des vrais chrétiens, non pas des usurpateurs de son nom. Et ensuite il dira, mais moi je t'ai jamais connu. Mais que nous voulons être ceux qui sont connus de lui. Père Céleste, nous sommes là devant toi et pardonne-nous si nous avons pensé à quelqu'un d'autre au lieu de nous-mêmes lorsque nous avons entendu ton enseignement. Seigneur, aide-nous à avoir cet amour sans hypocrisie, qui soit vrai, sans défaut. Et Seigneur, merci de ce qu'il nous soit possible de venir à toi. Parce que le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie constamment de tout péché. Et Seigneur, aussi, nous te prions de nous donner, que nous soyons motivés, zélés dans le service. Seigneur, tu as parlé, ta parole est là. Et Seigneur, aide-nous, viens au secours de notre incapacités, nos manquements. Et pardonne-nous notre passé. Et Seigneur, que nous puissions aller de l'avant, qu'il y ait un témoignage tel que même les gens du monde soient obligés de reconnaître qu'il y a, que tu es à l'œuvre. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.